de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Président et Premier ministre singapourien ont écrit une lettre de félicitations à Prabowo. Ministre de la Défense, Prabowo a reçu la visite honoraire de l'ambassadeur de Jordanie. Présidente de DPRI a apporté la question de la paix à la session parlementaire mondiale en Suisse. BNP2MI a confirmé que PMI avait été victime d'un navire coulé dans les eaux japonaises. Arabie Saoudite s'intéresse aux chaussures militaires indonésiennes. Bakamla organise une patrouille conjointe pour garder les zones maritimes indonésiennes. Ministère du Tourisme et du Commerce Créatif a déclaré que le congrès de la PAO avait un impact économique. Voici le journal complet. Le président de Singapour, Tan Mahathir, et le premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, ont écrit une lettre félicitant le président élu indonésien Prabowo Subianto pour sa victoire à l'élection présidentielle de 2024. C'est le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères de Singapour, cité par Antara, jeudi 21 mars. Le président de Singapour espère que les relations solides entre Singapour et l'Indonésie, soutenues par des liens étroits de parenté et d'amitié, pourront continuer à être maintenues sous la direction de Prabowo Subianto. De même, le premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, a déclaré qu'il pensait que grâce au soutien de Prabowo en tant que prochain président de l'Indonésie, Singapour et l'Indonésie pourraient construire une base solide pour faire progresser les relations bilatérales au profit des générations futures, y compris la coopération dans de nouveaux domaines tels que l'économie verte et numérique, la durabilité, les services de santé et le développement des ressources humaines. Le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, a reçu une visite honoraire de l'ambassadeur de Jordanie en Indonésie, Sudki Al-Omush, au bureau du ministère de la Défense à Jakarta, jeudi 21 mars. Rapporté par un communiqué officiel du ministère de la Défense, le ministre Prabowo a déclaré qu'il appréciait vraiment le partenariat entre l'Indonésie et la Jordanie et qu'il était conscient des grandes opportunités mutuellement bénéfiques. Selon Prabowo, les deux pays peuvent explorer les opportunités de collaboration dans l'industrie de défense, notamment le développement conjoint, l'achat d'équipements de défense et l'échange de connaissances. Le ministre Prabowo a également déclaré que les deux pays restaient déterminés à favoriser la paix mondiale, en particulier au Moyen-Orient, et à accroître la coopération bilatérale pour la prospérité et le bien-être mutuel. La présidente du DPRI, Pouane Maharani, devrait assister à la session générale du Parlement mondial intitulée la 148e Assemblée d'Union interparlementaire OIP à Genève en Suisse qui débutera samedi 23 mars. Dans une déclaration officielle reçue par Antara jeudi 21 mars, Pouane a déclaré que le Parlement devait jouer un rôle collectif dans la construction de la paix mondiale. Le thème de la session était « Diplomatie parlementaire, construire des ponts pour la paix et la compréhension ». Selon Pouane, le thème de la paix sera abordé étant donné que 56 pays ont connu des conflits armés l'année dernière. Pouane a déclaré que l'Assemblée de l'OIP fournirait un espace indispensable au dialogue parlementaire et à la diplomatie au niveau mondial, régional et bilatéral, en complément de l'ONU et d'autres forums multilatéraux. Outre le procès, Pouane devrait assister au Forum des femmes parlementaires ou au Forum des femmes parlementaires de l'OIP. Dans ce forum, selon elle, les partenaires discuteront de la question de la paix pour les femmes. Pouane doit également rencontrer la présidente de l'OIP, Tulia Akson. L'Agence indonésienne de protection des travailleurs migrants, BMPDMI, a confirmé que 6 membres d'équipage indonésien avaient été victimes d'une naufrage du navire Keo Yung Sun dans les eaux japonaises. C'est ce qu'a affirmé le chef du BMPDMI, Benny Ramdhani, dans une conférence de presse 21 mars à Jakarta. Cité par Antara, Beni a déclaré que sa partie continue de se coordonner avec les ministères et les agences pour garantir la protection des droits des membres d'équipages indonésiens, je veux dire d'équipages indonésiens. Le navire battant pavillon sud-coréen a coulé à Shimonoseki au Japon mercredi 20 mars. Le navire transportait 11 membres d'équipage, dont 8 citoyens indonésiens, 2 citoyens sud-coréens et un citoyen chinois. Beni expliquait qu'un membre d'équipage nommé Asep Saifuddin Juhri était toujours recherché lorsque cette nouvelle a été publiée. Pendant ce temps, le membre d'équipage nommé Rian Yudata Malizar a été retrouvé sain et sauf et est soigné à Fukuoka. L'ambassadeur d'Indonésie en Arabie Saoudite, Abdul Aziz Ahmad, a déclaré que les chaussures militaires indonésiennes étaient demandées par les entreprises importatrices d'Arabie Saoudite. Cité par Antara jeudi 21 mars, Abdul Aziz a déclaré que le gouvernement saoudien limitait les importations de produits militaires en provenance de divers pays. Les conditions actuelles ouvrent la possibilité à l'Indonésie de fournir des chaussures militaires à l'Arabie Saoudite. Pendant ce temps, l'attaché commercial de l'ambassade d'Indonésie à Riyad, Gunawan, a déclaré que l'exploration de cette activité pourrait accroître les opportunités pour les exportations indonésiennes non pétrolières et gazières vers le Moyen-Orient. L'Agence indonésienne de sécurité maritime, Bakamla RI, a organisé une patrouille à grande échelle avec des responsables de la sécurité maritime du TNI et Polri, jusqu'aux douanes et assises du ministère des Finances pour protéger les zones maritimes indonésiennes, jeudi 21 mars. Cette patrouille conjointe à grande échelle a été effectuée par Bakamla simultanément à tous les points frontaliers maritimes d'Indonésie. Dans un communiqué de presse officiel de Bakamla RI reçu par Antara, la patrouille à grande échelle vise à réduire le nombre de violations de la loi et de crimes en mer. Cette patrouille vise également à protéger les frontières territoriales maritimes, à assurer la sécurité et la sûreté dans les zones maritimes vulnérables et à protéger les ressources marines et l'environnement dans les eaux territoriales et sous la juridiction indonésienne. Ainsi, Bakamla peut jouer un rôle actif dans le confort des usagers de la mer et de toutes les activités économiques. Le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative, Kemenparekraf, a déclaré que la tenue du congrès sur la santé oculaire de l'Académie Asie-Pacifique d'Ophtalmologie, ou APAOU, APAO en 2024, a un impact économique pouvant atteindre de 150,4 milliards de rupiahs. cité par Antara, le personnel expert en développement des entreprises du ministère du Tourisme et de l'Économie Créative, Masuro, jeudi 21 mars, cité par Antara, a déclaré que ce chiffre représente une contribution de 0,94% au produit intérieur régional brut PIBG de la province de Bali 2024. Le congrès qui s'est tenu du 22 au 25 février à Bali a également créé une valeur ajoutée de 146,6 milliards de roupies et absorbé 1836 travailleurs de Bali. Selon Masuro, en absorbant beaucoup de travailleurs locaux, l'événement international comme celui-ci ouvre de vastes opportunités économiques aux communautés locales dans le secteur de l'hébergement, de la restauration ainsi que des transports et de l'entreposage. Pendant ce temps, l'impact indirect s'est senti dans le secteur du commerce, de gros et de détail d'une valeur de 25,1 milliards de roupies ainsi que dans les ventes de souvenirs qui ont atteint 14 milliards de roupies. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Rencontre du ministre chinois des Affaires étrangères avec le premier ministre australien stabilise les relations entre les deux pays » avec moi Audrey. Sachez tard, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré mercredi 20 mars le premier ministre australien Anthony Albanese à Canberra en Australie. La rencontre avec Albanese faisait partie de la visite de travail de Wang Yi en Australie. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que, grâce au leadership stratégique des deux pays, les obstacles rencontrés dans les relations sino-australiennes avaient été surmontés un en un. Dans le même temps, les questions en suspens sont résolus favorablement et donnent un élan aux nouvelles relations sino-australiennes. Wang Yi a également déclaré que depuis que les relations sino-australiennes sont revenues sur la bonne voie, les deux pays devraient avancer sans hésitation. Par ailleurs, le premier ministre Albanese a déclaré que l'Australie était heureuse de constater que les relations australo-chinoises étaient revenues dans la bonne direction au cours des deux dernières années, avec un renforcement du commerce, des investissements et des échanges entre les peuples. La visite du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en Australie montre le réchauffement des relations bilatérales entre les deux pays après avoir connu des divisions au cours des trois dernières années. Des problèmes entre les deux pays sont apparus en 2018 après que l'Australie a exclu le géant chinois des télécommunications Huawei de son réseau Internet national 5G pour des raisons de sécurité. Les tensions ont culminé en 2020 lorsque le gouvernement australien a exigé une enquête sur les origines du virus corona à Wuhan. Le gouvernement chinois estime que la position du gouvernement australien est politiquement chargée. En conséquence, la Chine a réagi en imposant des restrictions sur un certain nombre de produits d'exportation australiens et en arrêtant les importations de charbon. Des signes d'amélioration des relations entre les deux pays ont commencé à apparaître l'année dernière lorsqu'en novembre 2023, le premier ministre australien Anthony Albanese s'est rendu en Chine. Même si les tensions entre les deux pays se sont apaisées, tous deux admettent qu'il existe encore des points de divergence qui doivent continuer à être résolus, notamment le cas de l'écrivain Yang Hengchun, l'écrivain sino-australien, a été condamné à mort avec sursis par un tribunal de Pékin après avoir été reconnu coupable d'espionnage. En outre, les questions relatives aux droits de l'homme, notamment au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong, restent également des points de différend qui doivent être résolus par les deux pays. Même si des problèmes subsistent, il convient d'apprécier le succès des deux pays dans la stabilisation des relations bilatérales en mettant de côté plusieurs points de différends qui n'ont pas encore été résolus. Ceci a bien sûr été réalisé grâce aux efforts de dialogue déployés il y a plusieurs mois. Le premier ministre Anthony Albanese a mis en œuvre une politique de dialogue positif avec la Chine. Parallèlement, la Chine poursuit de manière proactive ses contacts avec l'Australie dans les forums multilatéraux. Les deux pays ont montré au monde que les différends ou les tensions peuvent être résolus par le dialogue et non par des démonstrations de force mutuelle. Bon, Serge Huitard, c'est tout le commentaire.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec les événements du 22 mars 1945, la création de la Ligue arabe. La Ligue arabe est une organisation régionale composée de pays du monde arabe, à savoir la région située entre la péninsule arabique et l'Afrique du Nord, généralement habitée par des groupes ethniques arabes et parlant arabe. La Ligue arabe a été officiellement fondée le 22 mars 1945 sur la base du protocole d'Alexandrie convenu le 7 août 1944 à Alexandrie, en Égypte. Initialement, la Ligue arabe était composée de 6 pays, à savoir l'Égypte, l'Irak, la Transjordanie, aujourd'hui la Jordanie, le Liban, l'Arabie saoudite et la Syrie. Actuellement, la Ligue arabe compte 22 pays membres dans le monde arabe. Thank you. Le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. La journée mondiale de l'eau est une commémoration annuelle internationale organisée par les Nations Unies chaque 22 mars. La journée mondiale de l'eau vise à attirer l'attention du public sur l'importance de l'eau propre et sur les efforts visant à surmonter la crise mondiale de l'eau. La journée mondiale de l'eau a été proclamée lors de la 47e Assemblée générale des Nations Unies le 22 décembre 1992 à Rio de Janeiro au Brésil. L'objectif principal de la Journée mondiale de l'eau est de soutenir la réalisation des objectifs de développement durable, à savoir la création d'un accès à l'eau et l'assainissement pour tous en 2030. Cette année, la Journée mondiale de l'eau a pour thème « L'eau pour la paix » afin de souligner l'utilisation de l'eau à des fins pacifiques. Nous terminons cette histoire aujourd'hui avec les événements du 22 mars 2013, l'incendie du camp de réfugiés au Myanmar, en Thaïlande. Le 22 mars 2013, un incendie s'est déclaré dans le camp de réfugiés de Ban Mae Surin, dans la province de Mae Hong Son, en Thaïlande. Le camp est habité par le groupe ethnique Karen, qui ont fui le Myanmar en raison du conflit. L'incendie s'est déclaré vers 4 heures de l'après-midi, heure locale, et a été atteint environ 2 heures plus tard. Le temps chaud accompagné de vents violents a provoqué une propagation rapide du feu. Cet incendie a fait 37 morts et environ 200 autres blessés. Environ 2300 personnes ont perdu leur abri. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie. Diffusé depuis Jakarta.
In the house, yo man. Let me tell you something about this song. Check it out.
Tidak perlu pantai jika ingin bersantai. Dengarlah lagu ini lewat headphone yang kau pakai. Nikmati sambil tanganmu melambai-lambai. Baru bilang bye-bye, eh sudah sampai.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Sejurita, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie, dont le titre est « Le ministre de l'énergie et des ressources minérales veille à ce que l'approvisionnement en gaz pour l'industrie des engrais soit assuré ». Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales veille à ce que l'approvisionnement en gaz pour l'industrie des engrais soit assuré. Le gouvernement donne la priorité au gaz pour les engrais. Si les engrais sont actuellement rares, c'est peut-être parce que l'allocation d'engrais subventionnés a été réduite, passant d'une allocation de 9,5 millions de tonnes à seulement 4,7 millions de tonnes. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, ESDM, Arifin Tasrif, dans sa déclaration à Jakarta, mercredi 20 mars, cité par l'agence de presse Antara. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, assure la disponibilité du gaz comme matière première pour les engrais, dans le but d'assurer la disponibilité des engrais pour les agriculteurs, de maintenir la stabilité des prix des engrais et d'augmenter la production alimentaire nationale. Selon lui, l'allocation de gaz naturel pour les engrais est une forme d'intervention gouvernementale dans le maintien de la sécurité alimentaire nationale. Le ministre Arifin a expliqué qu'avec un budget de 14 millions de rupiah, le gouvernement avait ramené l'allocation d'engrais subventionné à son niveau initial, à savoir 9,5 millions de tonnes, avant qu'il n'y ait pas de troubles parmi les agriculteurs. Auparavant, le ministre de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, avait confirmé que l'ajout d'engrais subventionné de 4,7 millions de tonnes, initialement à 9,55 millions de tonnes, avait reçu l'approbation de toutes les parties, y compris lors d'une réunion restreinte de la Chambre des représentants ou DPR et du ministère des Finances. Cependant, selon le ministre de l'Agriculture, les agriculteurs doivent être patients car actuellement le décret n'a pas encore été publié. D'autre part, le président directeur de Pupuk Indonesia Société Anonyme, Rahmat Pribadi, a déclaré que le budget total des subventions aux engrais a augmenté à 54 millions de rupiah pour l'allocation de 2024. Après que le gouvernement a déterminé qu'il n'y aurait un volume supplémentaire de 4,7 millions de tonnes à 9,5 millions de tonnes. Sejurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Tersenyumlah Indonesiaku.
Jauh masa depan, kelak suatu hari ku akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Ayolah kawan, bersama kita akan harumi Indonesia. Sampai depan yang indah bersamamu.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine culturel avec moi Audrey et je vais vous présenter cette fois Tradition Kunutan de Banten. Chers amis, habituellement les Indonésiens commencent à préparer du ketupat à l'approche de la fête de l'Aïd al-Fitr. Le ketupat est un plat culinaire à base de riz enveloppé dans des feuilles de cocotier tressées. Cependant, pour les habitants de l'île de Pramuka, des îles Seribu et de Banten, la préparation du ketupat est courante depuis le 15e jour du Ramadan. La tradition de préparer le ketupat au milieu du Ramadan est connue sous le nom de tradition Kunutan ou Kupatan. Il détenait la tradition Kunutan pour renforcer les liens entre les communautés ainsi qu'une forme de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour son amour qui les a rapprochés du Ramadan. Chers amis, dans la tradition Kunutan, les mères préparent généralement le ketupat dans leurs maisons respectives. Ou encore, il y a aussi des groupes de résidents qui apportent des contributions puis font du ketupat ensemble. Habituellement, le ketupat cuit est apporté à la mosquée avant le coucher du soleil lors de la rupture de jeûne. En raison du grand nombre de ketupat dans la mosquée envoyés par les résidents, les ketupat ont ensuite été à nouveau distribués à la congrégation qui priait Tarawih. Après les prières de Tarawih, ils se rassembleront et mangeront du ketupat ensemble. Dans cette tradition, le ketupat se déguste également avec de la peau de légumes tangil ou melinjo, des légumes citrouilles. Pendant ce temps, les plats d'accompagnement sont du poulet au porc, du balado au bœuf et du ragoût de bœuf. Chers amis, la tradition Kunutan est également marquée par la récitation de la prière Kunut à la fin de la raka'ah de Tarawih. Selon l'enseignement de Imam Shafi'i, à partir du 16 du Ramadan, c'est une sunna de lire la prière du Kunut dans la dernière raka'a de la prière du Witr. La lecture de la prière du Kunut est une habitude qui s'est transmise de génération en génération. Si vous ne le suivez pas, ce n'est pas grave et ce n'est pas un péché. La récitation de la prière du Kunut dure jusqu'à la fin du Ramadan. Bonjour Juétard, c'est tout, le magazine culturel. C'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée Festival Ultra Beach de Bali 2024, avec moi Audrey. Chaque jour, Bali en Indonésie est connu comme un paradis pour les amoureux de la plage et les fans de musique électronique du monde entier. Chaque année, des milliers de personnes du monde entier se rassemblent sur l'île des dieux pour assister à l'un des festivals de musique électronique les plus attendus, à savoir le Bali Ultra Beach Festival. Le festival fait partie d'Ultra Worldwide, qui s'est bâti une réputation de premier organisateur mondial d'événements de musique électronique. Ultra Beach Bali offre une expérience unique combinant la musique électronique et la beauté naturelle époustouflante de Bali. Chers amis, le sixième Ultra Beach reviendra à Bali les 6 et 7 juin 2024. Cette année, Ultra Beach présentera une programmation intéressante des musiciens internationaux pour divertir le public. Le prochain Bali Ultra Beach Festival aura lieu pour la première fois dans la zone du village balnéaire de Canggu à Bali. Cet événement aura lieu au Café Del Mar, un club à plusieurs étages doté d'une grande piscine en bord de mer. Chers amis, Ultra Beach Bali promet de perpétuer l'héritage de ce festival en mettant en vedette les meilleurs musiciens ou les jockeys qui sont actuellement encore gardés secrets. L'année dernière, cet événement a réuni de nombreux musiciens étrangers tels que Zedd Griffin, Alan Walker, Jonas Blue et WNW. Depuis sa première tenue en 2015, Ultra Beach Bali a présenté une série de DJ bien connus dans le monde de la musique électronique tels que Skrillex, Kygo, Alesso, Hardwell, KSHMR, Oliver Heldens, Martin Garrix, John Summit, Afrojack, Ted Pot 5 et Dubfire. Bon changement d'heure, c'est tout, l'Indonésie en couleur.
Yang terima
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec Maudrey. Je vais vous présenter cette fois une chanson pop régionale du Nord des Moluques intitulé Borero, chanté par Rido Rémy et Tox Epon. Chaque tard, cette chanson fait partie de la tradition orale de la tribu Ambon et des autres peuples des Moluques du Nord. En langue Borero, cela signifie un message ou un conseil profond. La chanson Borero est généralement chantée lors de pièces de théâtre, de cérémonies traditionnelles et en accompagnement de spectacles. Même si les paroles de cette chanson sont pleines d'allusions à connotations philosophiques, à première vue, la chanson invite les auditeurs à toujours être introspectifs et à respecter les traditions. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée « Borero » de Moluques du Nord, chantée en version rap par Rido Rémy et Tox Epon. Bonne écoute!
Nusantara di utara Maluku, kabaya itu budaya, bukan barang baru. Kenapa seng mengaku, baru bilang malu. Jujaro zaman sekarang, hanya bikin malu. Sekolah tinggi-tinggi, tapi otak bodoh. Ingat janji sumpah, tatua dolo-dolo. Dong kasih ingat, jaga tu budaya. Bukan tambah pintar, lalu lupa semua. Bukan seng sanang, kato harus modern. Tapi jangan lupa, lihat ke belakang. Makan daging ayam, so lupa ikan garam. So kanal yang modern, budaya dilupakan. Moyang berjuang, jaga budaya. Untuk katorang generasi yang ada. Tapi mengapa semua so lupa. Kas tinggal pateka, hilang percuma. Cocok dasar muka abu leke. Ahlak karu di mana tabiat susen bayi. Lebih baik kamu mati yang bikin tambah sore. Kenapa mengapa kamu lupa kabaya. Kenapa mengapa seng mengaku budaya. Kenapa mengapa sebenarnya ada apa. Tolong jawab beta ini tanda tanya. Kamu dari mana, apakah Amerika. Kamu dari mana, apa dari Korea. Kalau cuma Maluku jangan terlalu balagu. Terlama tak makan sumpah baru kamu tahu. Budaya katong punya yang harus katong jaga. Budaya katong punya yang bikin katong bangga. Budaya katong punya dari Maluku Utara. Kalau katong susen jaga kau mau harap yang siapa. Yeah.
Kiego lugo sabadan masing sara. soneto soninga borero.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.